Alors c'est drôle parce que on s'est pas concerté avec Atzi et Estelle, et je vais justement vous parler de ce repas que Jésus a préparé pour ses disciples. Bon, mais c'était prévu de longue date. Hein. Voilà, Jésus le cuisinier. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, donc c'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. We read the Bible in the Gospel of John. Hein? Chapter 21, the 14 first verses. Alors, je vais lire quand même les deux derniers versets du chapitre précédent. Donc au chapitre 20, au verset 30, Jean écrivait « Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » Et donc maintenant, on lit la première partie du chapitre 21, donc le dernier chapitre de l'évangile de Jean. « Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Vous savez que souvent, notamment en Orient, on pêche de nuit. Les pêches sont souvent plus fructueuses la nuit, hein, c'est pour ça. Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, « Hé les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Rien, » répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau, » leur dit-il alors, « et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet, et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Et, malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger !» leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu ? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Les deux derniers versets que j'ai lus, là, du chapitre précédent, donnent tout à fait l'impression que Jean est arrivé à la conclusion de son évangile. Et notamment de ce qu'il voulait démontrer et proclamer, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et que si ses lecteurs croient au Seigneur Jésus, ils obtiennent la vie éternelle. On est donc surpris qu'il y ait un chapitre supplémentaire. Et cela n'a pas manqué de susciter l'étonnement et les spéculations des théologiens. Certains ont avancé que ce chapitre 21 n'était pas de la plume de Jean, mais de l'un de ses disciples, puisque Jean a vécu très longtemps. Et notamment, il a continué à enseigner la parole de Dieu quand il était dans la province romaine d'Asie, à Éphèse, d'après la tradition. Mais le premier verset du chapitre 21 que nous avons lu fait tout à fait la liaison avec ce qui précède. « Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Et voici en quelles circonstances. Alors sachez simplement que la plupart et les meilleurs des savants évangéliques admettent que le chapitre 21 est bien de la plume de Jean et qu'il n'y a aucune raison vraiment solide de lui en dénier la paternité. Alors après la fête de la Pâque et la semaine des pains sans levain, les disciples sont retournés en Galilée où le Seigneur Jésus leur avait donné rendez-vous. On trouve ça en Matthieu 26, 32 par exemple ou Marc 14, 28. Il leur a dit « Quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée ». N'oublions pas que tous ces disciples étaient des Galiléens et qu'un certain nombre d'entre eux étaient des pêcheurs professionnels qui exerçaient leur métier sur le lac de Galilée ou lac de Tibériade, hein, c'est la même chose. Ils avaient accompagné Jésus à Jérusalem probablement au moins à 3 reprises et la dernière fois ils avaient assisté à son arrestation, à sa condamnation et à son exécution, mais aussi à sa résurrection. Alors le verset 2 nous apprend que 7 des disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Il est probable que ces disciples-là avaient fait le trajet ensemble de Jérusalem jusqu'en Galilée. 5 d'entre eux nous sont nommés, Pierre, Thomas, Nathanaël et les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. C'est là d'ailleurs qu'on apprend que Nathanaël, disciple recruté au tout premier chapitre de l'évangile de Jean, était de Cana, en Galilée, justement. Au verset 3, donc, Simon-Pierre décide d'aller à la pêche. Les autres décident d'aller avec lui. Cette décision peut paraître un peu terre à terre, compte tenu de la mission qui leur avait été confiée peu de temps auparavant par Jésus. Je vous rappelle cette mission qu'on a vue en 20-21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il avait même soufflé sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Mais, un, même si on est missionnaire, il faut bien manger. Et deux, bien que Jésus ait soufflé sur eux le Saint-Esprit au chapitre précédent, en leur confiant une mission extraordinaire, ils ne sont manifestement pas encore revêtus de la puissance extraordinaire qui se manifestera dans peu de temps lors de la Pentecôte, lors de cette manifestation très particulière du Saint-Esprit. Alors, les voilà partis à la pêche. Ils pêchent toute la nuit et ne prennent rien, pas un seul poisson, dit le texte. Cela n'est bien sûr pas sans nous rappeler une autre pêche, tout aussi infructueuse, de Pierre, qui nous est rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Luc chapitre 5, je vais lire les 10 premiers versets. Gospel of Luke, chapter 5. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, c'est aussi le lac de Tibériade, la mer de Galilée, tout ça c'est le même lac, hein, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs ont été descendus et nettoyé leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit sur la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance un peu vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit. » Vous voyez, là aussi, il travaille la nuit. Hein. « Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même, d'ailleurs, de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Alors revenons à notre texte, au verset 4. Là aussi, ils ont travaillé toute la nuit, sans prendre un poisson. Déjà l'aube commence à se lever, et voilà ce que Jésus avait dit à ses disciples s'accomplit. Il est là, il les attend sur le rivage du lac de Galilée. Mais Jean nous précise qu'il ne savait pas que c'était Jésus. D'une part, il n'est pas certain qu'ils se rappelaient que Jésus leur avait dit qu'il les retrouverait dans cette région. D'autre part, il n'était probablement et tout simplement pas évident de distinguer un personnage à une centaine de mètres dans le clair-obscur de l'aube naissante. Il les interpelle. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» La structure de la phrase, dans le texte original, indique qu'on devrait plutôt traduire « Jeunes gens, n'avez-vous rien pris ?» Ce qui sous-entend une réponse négative et montre bien que Jésus savait parfaitement qu'il n'avait rien pris. Avant même de leur poser la question. Alors au verset 6, ce personnage mystérieux, qui n'est autre que Jésus, leur conseille de jeter le filet du côté droit du bateau et que là, ils trouveront du poisson. Et là, le miracle de la pêche miraculeuse se produit une deuxième fois. Le filet est tellement plein de poissons qu'ils n'arrivent pas à le remonter dans le bateau. À l'évidence, Jésus savait qu'il y avait un important banc de poissons du côté droit de leur embarcation. N'oublions pas que le Fils éternel de Dieu est l'artisan de sa création. Il a même, d'ailleurs, pu rassembler un banc de poissons du côté droit de la barque à dessein pour leur montrer, une fois de plus, que sans lui, ils ne peuvent rien faire, malgré toutes leurs compétences de pêcheurs professionnels. Jésus avait dit à Pierre que, dorénavant, il pêcherait des hommes. On comprend que Jésus montre ainsi à ses disciples que pour pêcher des hommes, ils devront encore plus lui faire confiance sur la méthode. Au verset 7, le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, dit alors à Pierre « C'est le Seigneur !» Et aussitôt, Pierre se jette à l'eau pour le rejoindre. Cette mention est un gage extraordinaire de l'authenticité de ce récit. On y retrouve la perspicacité de Jean, qui s'est dit « ça ne peut être que Jésus », et la fougue de Pierre, qui se jette à l'eau. Comment un auteur autre que Jean lui-même, donc le disciple que Jésus aimait, aurait-il pu raconter cet épisode d'une façon aussi vraie, collant parfaitement avec le caractère différent de ses deux disciples, s'il n'était pas le véritable auteur de ce récit? Et Jean ajoute un détail savoureux. Pierre s'habille pour se jeter à l'eau. Le texte dit que Pierre était nu, gymnos en grec, hein, qui a donné gymnase en français parce que les athlètes grecs s'exerçaient nus. Hein. En fait, il était probablement vêtu d'un simple pagne plus commode pour travailler, car les Juifs n'avaient pas la même liberté avec la nudité que les Grecs. Mais là, il n'hésite pas à revêtir sa tunique pour rejoindre son Seigneur, même si c'est certainement moins commode pour nager. Mais il est tellement heureux de retrouver Jésus qu'il ne s'arrête pas à ce détail. Au verset 8, les autres disciples qui sont restés dans le bateau remorquent tant bien que mal le filet jusqu'au rivage, ne pouvant pas le hisser dans le bateau du fait du poids des poissons. Verset 9 et 10, alors Jésus les accueille avec du poisson qu'il est en train de faire griller sur un feu de braise et du pain. Et il les invite à prendre avec lui leur petit déjeuner, tout en leur proposant d'apporter quelques-uns des poissons qu'ils venaient de prendre. Pierre remonte dans le bateau pour aider ses collègues à tirer le filet à terre, et ils font le compte de leur prise, 153 gros poissons. Il y a eu de nombreuses spéculations sur ce chiffre, étonnamment précis, mais aucune d'elles n'est réellement convaincante qu'il signifie autre chose qu'une magnifique pêche, tout simplement. Et Jean ajoute un autre détail. Malgré le grand nombre de poissons, le filet ne se déchira pas. Bien sûr, on peut y voir la sollicitude du Seigneur qui ne veut pas que ses disciples perdent leur instrument de travail. Mais selon certains, cette observation peut indiquer que le filet de l'Évangile ne se rompra jamais. Qu'il n'y a pas de limite au nombre de convertis qu'il attrape. Observation pertinente, me semble-t-il, et combien encourageante. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun disciple n'osa lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Il y a toujours un peu ce doute dans leur cœur. Hein. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. Il est probable qu'il restait à une certaine distance qui a amené Jésus à s'approcher pour les inviter et les servir. Il savait bien que c'était le Seigneur, le texte le dit, et pourtant, aucun n'osait lui demander « Qui es-tu ?» Ce paradoxe nous montre que malgré tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, ils ont encore de la peine à pleinement accepter que leur maître est réellement ressuscité. Leur foi est encore faible et il va falloir toute la puissance et la persuasion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte pour ôter tous leurs doutes et les équiper pour un témoignage débarrassé de toute leur réticence et caractérisé alors par une pleine hardiesse et même par la puissance. Et Jean nous dit au verset 14, c'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Jean ne compte pas dans cette troisième fois l'apparition de Jésus à Marie de Magdala, parce qu'elle ne faisait pas partie des disciples officiels choisis par le maître. On trouve dans l'évangile de Luc qu'il était aussi apparu le jour même de sa résurrection à deux disciples qui se rendaient à Emmaüs, un petit village proche de Jérusalem. Et Paul nous apprend en 1 Corinthiens 15 qu'il était aussi apparu à Pierre, spécifiquement, à Jacques et aussi à plus de 500 frères à la fois. Alors on peut tirer quelques enseignements très simples de ce texte. Premièrement, on peut mettre la diapositive suivante. Voilà. Jésus tient toujours ses promesses. Il avait dit à ses disciples qu'il les précéderait en Galilée, et là, il les y attend en effet, attestant de sa puissance par une nouvelle pêche miraculeuse et leur offrant un petit déjeuner d'hommes matinal sur la plage. Deuxièmement, il avait dit à Pierre qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes. Il lui montre une nouvelle fois que pour que cette mission soit fructueuse, il l'assistera de sa sollicitude et de sa puissance et qui pourra vraiment compter sur lui. Troisièmement, il lui montre en même temps que sans lui, ça ne marchera pas. « Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire », leur avait-il dit au chapitre 15 de l'évangile de Jean, dans cette image de la vigne et des sarments. Il en est de même pour nous. Sans la communion constante avec le Seigneur, imagée par la sève qui passe en permanence du cep au sarment, nos efforts d'évangélisation seront vains. Mais avec lui, le résultat sera incroyable, au-delà de nos espérances. Alors, cultivons avec soin cette communion avec le Seigneur. Il ne leur fait pas reproche de leur difficulté à croire que c'est bien lui, qu'il est réellement ressuscité. Le fondateur de Jeunesse en Mission, Loren Cunningham, a écrit un livre intitulé « Est-ce bien toi, Seigneur ?» Le thème de ce livre consiste à rechercher et discerner la volonté du Seigneur dans tout ce qu'on entreprend. Alors, est-ce bien toi, Seigneur ? Le Seigneur connaît notre faiblesse, nos doutes, etc. Mais il prend plaisir à nous rassurer en permanence tout au long de notre service pour lui et nous donnera chaque fois que nécessaire la conviction que c'est bien lui qui est aux commandes et que nous pouvons donc avoir confiance. Et si nous nous engageons dans une voie qui n'est pas conforme à sa volonté, il nous le fera aussi savoir, pour peu que nous l'écoutions vraiment. Alors tu peux remettre la première, enfin celle d'avant juste, voilà. Donc, comme je l'ai dit là, vous voyez, c'est projeté, Jésus tient toujours ses promesses. Tout comme Pierre, nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes. Jésus sait où il faut jeter le filet, et peut-être même qu'il rassemble le banc de poissons. Mais il nous prévient que sans lui, nos efforts seront vains. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il connaît notre faiblesse, notre incrédulité, et ne nous en fait pas reproche. La suivante. Si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, nous saurons discerner où et comment il veut que nous évangélisions. Il y a un cas, par exemple, qui a concerné Paul et Silas, alors que, qui est rapporté dans le livre des Actes, ils avaient l'intention d'aller évangéliser la région du pont, et puis l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et du coup, ils se sont tournés de l'autre côté et sont allés en Europe. Et c'est comme ça que l'Évangile est parvenu en Europe. Application pratique pour nous, devons-nous nous engager dans un parcours alpha? Alors, vous savez que 7 de nos frères et sœurs sont en ce moment à la Tour du Pin pour suivre un séminaire sur le parcours alpha. Alors, prions pour eux et surtout pour que nous discernions la volonté du Seigneur lorsqu'ils nous rendront compte de ce qu'ils auront vécu. Que le Seigneur vous bénisse.